France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la politique migratoire de l'Europe en général et celle de la France en particulier. Deux ans après ce que l'on a appelé la crise des migrants qui a conduit l'Allemagne à accueillir plus d'un million de personnes sur son sol, où en est l'Union européenne? Y a-t-il toujours des arrivées sur le sol européen? De quelle ampleur et par quel chemin? Où en est-on de la fameuse relocalisation demandée par la Commission européenne? Qu'en est-il des pays qui en refusent toujours le principe? Et quid de la France qui souhaite instruire les dossiers de demandeurs d'asile en amont, en Afrique? On en parlera avec nos invités, avec lesquels on parlera aussi de la Libye, avec laquelle une partie des 27 sont prêts à coopérer. Pour aborder tous ces sujets avec nous ce soir, Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Bonsoir Pascal Brice.
Bonsoir.
Geneviève Jacques, la présidente de la CIMAD, une association qui vient en aide aux migrants depuis bien longtemps. Bonsoir Geneviève Jacques.
Bonsoir.
Sylvie Guillaume, qui est eurodéputée socialiste, vice-présidente du Parlement européen, spécialiste des questions d'immigration et de droit d'asile. Elle est en direct depuis les locaux de Radio France à Lyon. Bonsoir Sylvie Guillaume.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et puis toujours en studio, ici à Paris, Sophie Beau, vice-présidente de SOS Méditerranée Internationale. Pour interroger nos invités, franceinter.fr ou Twitter avec le mot Estelson. Vous avez aussi le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui de Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
D'où nous appelez-vous? Je suis pas très sûr de l'orthographe de
votre... Lévignan, dans le Gard.
Très bien, bonsoir à vous. Vous aviez une question, peut-être pour Sophie Beau, je crois, mais aussi pour nos autres invités.
Peut-être, voilà, moi je trouve super le boulot que fait l'Aquarius, mais je me demande pourquoi, de temps en temps, on ramène pas des bateaux vers la France directement, plutôt que les envoyer en Italie, où après, il y a, s'ils viennent en France, ils seront dublinés, c'est catastrophique, quoi. Pourquoi ne pas les ramener directement vers la France?
Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette question. Sophie Beau, c'est à vous que ça t'adresse, alors
oui.
Pourquoi?
Alors c'est très encadré, nous travaillons en collaboration toujours avec le centre de coordination des secours qui est basé à Rome et qui nous indique le port de débarquement des personnes secourues. Donc ce n'est pas du tout l'équipage de l'Aquarius qui décide où ramener les migrants. Et l'obligation absolue et l'impératif du droit maritime international, c'est de les débarquer dans un port sûr. Alors évidemment, il n'y a pas que l'Italie qui pourrait être considérée comme port sûr, en tout cas pas la Libye, ça c'est certain. Mais les autres pays européens ne sont pas tout à fait candidats à accueillir, puisque l'Italie a posé la question de manière très formelle au mois de juin dernier à ses homologues européens et ça a été refusé par tout le monde. Et c'est à ce moment-là que l'Italie a développé son code de conduite dont on parlait tout à l'heure pour les ONG.
Geneviève Jacques, vous souhaitiez peut-être répondre vous aussi à Jean-Pierre ?
Oui, c'est pour dire que effectivement, le fait que d'autres pays européens, dont le nôtre, refuse que des bateaux puissent accoster en France, fait que ceux qui arrivent en Italie, dans la pauvre Italie qui actuellement est absolument débordée, ils vont remonter toute la péninsule et arriver en France, être soumis à toutes les vexations en essayant de passer la frontière, et puis arriver en France et ils seront dublinés. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire.
Écoutez, beaucoup de gens savent ce que ça veut dire, mais je pense que c'est pas inutile de le rappeler tout de même.
C'est le règlement Dublin est un règlement qui a été pris par les pays européens et qui stipule que le premier pays dans lequel une personne étrangère a déposé ses empreintes dans un fichier qui est partagé ensuite, ce pays est responsable du traitement de sa demande d'asile. Or, beaucoup de personnes qui arrivent en Italie savent très bien que l'Italie est absolument saturée, que les conditions dans les camps sont devenues invivables, malgré tous les efforts que la société civile italienne a fait. Mais c'est actuellement. Et donc, ils arrivent en France. Et quand ils arrivent en France, l'hypocrisie complète, consiste à dire « Ah non, 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 on n'acceptera pas que vous déposiez une demande d'asile en France ». Parce que c'est à l'Italie de s'occuper de vous et ce sont ces hommes et ces femmes que nous rencontrons errants à travers la France et que nous rencontrons beaucoup dans nos permanences à la CIMAD.
Pascal Brice de l'OFPRA, qu'est-ce que vous répondez vous à Jean-Pierre ?
On le voit bien, on l'entend depuis tout à l'heure, je vous entendais Madame Beau en venant... Je confirme ce que les officiers de protection de l'OFPRA entendent des centaines de fois par jour. Que ce soit ici, en France, lorsque les personnes demandent l'asile, ou à l'arrivée dans les ports italiens, où l'Aquarius arrive. c'est l'enfer. Et je pense que nous l'entendons depuis des mois, l'enfer en Libye. Et je pense qu'hélas, nous n'avons pas encore, la communauté internationale n'a pas encore découvert la totalité de ce qu'on va découvrir. Il faut donc une réponse. Une réponse, et une réponse européenne, parce qu'on le voit bien, il y a des réponses, celle que l'Aquarius apporte est une réponse courageuse, c'est une réponse qui ne peut être qu'européenne, et elle a été défaillante, cette réponse-là, parce qu'elle est venue en ordre dispersé, parce que il faut aussi, je crois, que nous soyons lucides, que nous sommes dans un moment où, des sociétés européennes, qui sont des moments aussi de crispation, et moi je crois que nous devons la lucidité à l'action. La lucidité notamment, et c'est évidemment la vocation de l'OFPRA, pour protéger celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. Pour le faire de manière totalement conforme au droit d'asile, et nous savons que dans notre pays, notamment le président de la République a eu l'occasion de le rappeler, que nous avons encore des progrès considérables à faire pour que ce droit soit pleinement respecté, à l'arrivée dans les ports italiens. Et donc moi je dirais à votre auditeur que oui, la question est celle de l'arrivée dans les ports, mais elle est surtout celle de la mise en œuvre des décisions européennes qui ont été prises, qui voulaient que dans certains lieux aux frontières extérieures de l'Union, les gens soient accueillis dans la dignité, mais pour ça il faut que les Italiens l'acceptent, il faut que les Italiens y soient aidés, il faut que les uns et les autres participions à cela. Le président de la République a demandé à l'OFPRA, ce sera fait dans les prochaines semaines, d'aller en Italie directement sur place, entendre les demandeurs d'asile. Cette mobilisation, elle va nous conduire aussi, vous l'avez dit, on en parlera sûrement, au Niger et au Tchad. Il faut aussi que nous soyons, je le disais, dans cette lucidité. Moi, j'entendais tout à l'heure vos reportages à propos de ces jeunes femmes du Nigeria. Moi, ça m'a rappelé un souvenir terrible. À mon arrivée à l'OFPRA, il y a 4 ans, une discussion avec des travailleuses du bus des femmes. À propos de jeunes femmes du Nigeria, déjà. Et comme vous, nous les voyons arriver par ces routes-là. Chaque jour plus jeune, chaque jour les officiers de protection me disent, aujourd'hui nous en avons entendu une, elle a 13 ans. Eh bien les travailleuses sociales m'ont dit une chose, c'est qu'elles étaient conduites à l'OFPRA par des proxénètes, pour avoir un titre de séjour. Et donc la lucidité nous oblige, en tout cas moi je sais que c'est le regard que nous avons, d'être dans l'action et d'être totalement lucide sur les conséquences de nos actes. Et donc c'est d'abord aux États, à l'Union européenne, aux États d'exercer leurs responsabilités pour respecter pleinement le droit d'asile, et il y a de la marge, au niveau européen, au niveau national, et à tous les acteurs d'y contribuer, parce qu'il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à accepter ces drames en Méditerranée et en Libye.
Alors on va aller à Lyon retrouver Sylvie Guillaume, la vice-présidente du Parlement européen, parce que c'est vraiment plus que jamais la question européenne qui est posée, la solidarité européenne, la coordination de la politique. Sylvie Guillaume, on a l'impression que c'est de pire en pire.
Ce n'est pas de pire en pire, mais c'est vrai que ça fonctionne extrêmement mal. Et ce qui vient d'être dit à la fois sur la lucidité qu'on doit avoir sur un certain nombre de parcours, la lucidité aussi, la tension qu'on peut avoir vis-à-vis des sociétés d'accueil, elle se double aussi d'un prérequis absolument indispensable pour une politique migratoire et d'asile européenne qui se tienne, c'est que chacun prend ses responsabilités. Or, pour l'instant, si les États membres, pour la plupart d'entre eux, et encore, ça n'est pas certain, sont à peu près d'accord pour partager des analyses, ils ne sont absolument pas solidaires pour l'application des décisions. Donc ça, c'est quand même un prérequis important. Et quand on voit les gens qui sont ballottés d'un pays à l'autre et qui sont évacués de façon tout à fait indigne, on voit bien que cette solidarité n'existe pas. Elle n'existe pas non plus quand il s'agit de parler de relocalisation. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le bilan final de ce dispositif qui voulait qu'on puisse s'occuper de 160 000 personnes depuis la Grèce et l'Italie se solde quand même par une forme d'échec.
Mais je crois qu'on peut en parler tout de suite. Il y a quoi, 27 000 personnes qui ont été réparties, c'est ça seulement ?
Voilà, un petit peu plus de 27 000 personnes. Donc rendez-vous compte que c'est quand même un chiffre très, très insuffisant. C'est très décevant. C'est moins de 20% de ce qui était prévu. Donc on voit bien que un bon nombre d'États membres n'ont pas joué le jeu en la matière. La France, là, même si elle n'atteint pas ses objectifs, puisque je crois qu'il y avait environ 20 000 personnes qui devaient être accueillies, ça reste le pays qui est le deuxième plus grand qui accueille le plus de personnes. C'est quand même pas énorme sur 160 000 personnes. Donc il y a un effort à faire, il y a un effort sur la relocalisation et il y a un effort sur le partage. Un mot quand même sur la réforme sur la question du règlement Dublin, parce que c'est quand même le cœur de la bataille. Si on continue de faire peser la charge de l'accueil sur les pays de première entrée, c'est-à-dire ceux qui sont nécessairement aux frontières de l'Union européenne. La géographie, ça a peu de chances de bouger quand même. Ça, on sera dans la même difficulté. Et pour l'instant, la réforme du règlement Dublin, elle est complètement encalminée. Ça ne fonctionne pas dans la discussion entre les États membres. Ça ne fonctionne plus non plus au Parlement européen. Nous sommes bloqués parce qu'il y a un certain nombre de notions qui sont très, très difficiles à faire passer. Et je ne veux pas paraître pessimiste, mais je crains malheureusement qu'on ait énormément de mal à les faire passer. Je pense, moi, qu'il faut qu'on supprime cette notion de pays, premier pays d'entrée. Et il faut qu'on aille vers quelque chose qui soit une sorte de mécanisme permanent et automatique qui soit basé sur la solidarité. Et là, on aurait plus simplement des États membres qui sont sous pression et qui accueillent les gens. On aurait un mécanisme beaucoup plus européen, beaucoup plus intégré. Donc il y a des progrès à faire en matière d'asile et en matière de politique de migration.
Merci Sylvie Guillaume. Je vais vous repasser la parole à tous, mais on va faire un petit détour par le standard de France Inter, puisque c'est le téléphone sonne et que Patrice a envie d'intervenir, et je pense que ça va rejoindre ce qu'on vient d'entendre. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, voilà, une remarque. Le Liban accueille 1 million de réfugiés, soit l'équivalent du quart de sa population. Pendant ce temps-là, l'Europe restreint l'immigration. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'Europe n'a pas les moyens, proportionnellement, autant de moyens que ce petit pays pour remplir cette tâche humanitaire. Ce que je trouve sidérant, c'est que l'Europe, que son croyant ou pas, s'est construite sur des bases chrétiennes, où, me semble-t-il, il est dit que l'on doit venir en aide à son prochain, que tous les hommes sont frères. Je fais remarquer quand même que le pape s'appelle François, qu'il a pris ce nom en mémoire de François d'Assise, qui est un type bien, qui refile sa chemise aux nécessiteux. Et qu'est-ce qu'on voit? On assiste à des montées de nationalisme, parfois relayées par une droite traditionnelle, des nationalismes qui se revendiquent haut et fort les origines chrétiennes et dont l'hypocrisie n'est d'équivalent que leur tendance fasciste, que je trouve pitoyable. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui oublient que l'on ne choisit pas son lieu de naissance. Une petite remarque, dans les années 80, quand Tchernobyl a sauté, la dalle a été sauvée par les liquidateurs. Eh bien, s'il n'était pas intervenu, il aurait fallu évacuer toute l'Europe de l'Ouest. Que serions-nous, vous, sur le plateau, vous, les gens qui écoutez, des émigrés implorant un pays hôte pour nous accueillir, alors qu'on arrête de mépriser les immigrés.
Merci beaucoup, Patrice, d'avoir appelé France Inter. J'ai passé la parole à Geneviève Jacques de la CIMAD, puisque la CIMAD, historiquement, effectivement, est chrétienne hein, comme organisation, et il faisait référence au pape François et au principe de l'Église.
Moi Patrice. Aussi, je dis merci, Patrice, parce que effectivement, on est dans une période où il y a de telles contradictions entre des valeurs que on continue à réaffirmer et c'est bien de les réaffirmer et une absence de courage, de volonté politique au-delà de l'accueil humain qui devrait s'imposer, comme le dit Patrice, et que le pape François rappelle avec force. Il y a là toute une question de réflexion et de conception de politique publique qui soit à la hauteur des questions migratoires de ce temps. Et là, actuellement, il y a une espèce de refus de manque de courage des pays européens de prendre en charge cette question. Et du coup, il y a des mouvements de population qui se trouvent, eux d'abord, en errance, en souffrance, soumis à toutes sortes de violences, et des réactions de population qui s'effraient, qui ont peur, etc. Il faut repenser fondamentalement une politique migratoire européenne. Mais la France pourrait commencer aussi.
Alors justement, on va poser la question notamment à Pascal Brice, qui est le directeur général de l'OFPRA. Pourquoi la France n'accueille pas plus de réfugiés? Pourquoi est-ce qu'elle n'accorde pas plus le statut de réfugié? On parlait tout à l'heure des relocalisations qui ont eu lieu suite à la crise de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens que vous étiez même allé en Allemagne à l'époque,
oui,
à Munich, pour,
ouais,
pour rencontrer
pour accueillir 600 réfugiés, dont d'ailleurs je peux vous dire que l'un est potier à Munich, l'autre vient d'avoir une petite fille en Auvergne, et que notre pays est aussi ça, c'est-à-dire que Geneviève Jacques connaît bien, que l'Aquarius que vous portez avec l'Aquarius, c'est cet enthousiasme, cette envie d'accueillir, puis en même temps il y a ce que votre auditeur décrivait. C'est-à-dire que pour moi, la question, en tant que directeur de l'OFPRA, veillant avec les officiers de protection à appliquer le droit d'asile, elle est de savoir comment nous pouvons, dans ce contexte social-là, faire grandir l'accueil des réfugiés dont vous parlez, parce que c'est ça. Si on peut se faire, on veut se dire faire comme si la réalité n'existait pas. On accueille tout le monde, on se pose pas de questions. Je crois que certains l'ont fait. Et puis la politique a évolué. Donc c'est dans la durée qu'il faut arriver à accueillir plus de réfugiés. Alors comment le faire? Il faut le faire dans le respect absolu du droit. Dès que l'on biaise avec le droit d'asile, ça n'est plus possible. Quand, par exemple, on invente un accord qui conduit à ce que des réfugiés, non pas des déboutés, des réfugiés syriens soient reconduits vers la Turquie depuis la Grèce, on n'est pas dans le droit d'asile. Donc là, on fait fausse route. Il faut respecter absolument le droit. Il faut être dans la générosité telle qu'elle s'exprime dans la société française, notamment. Il faut être aussi dans l'organisation et la maîtrise. Parce que moi, je crois que le désordre est préjudiciable à l'accueil des réfugiés. Ce qui veut dire, c'est ce que le président de la République disait quand il disait il faut cesser de penser qu'en laissant les gens à la rue, le fameux appel d'air, les autres ne viendront pas. Non, il faut accueillir, il faut héberger, il faut que les procédures s'appliquent vite et bien. Il faut intégrer celles et ceux qui relèvent
les délais de...
Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 3 mois à l'OFPRA. Nous avons réduit les délais, mais il y a encore des délais d'accès aux préfectures. Nous avons été, Sylvie Guillaume le redisait, le premier pays pour la relocalisation. Alors, c'est seulement 5000 personnes, mais je peux vous dire que depuis 2 ans, vous aviez chaque mois des équipes de l'OFPRA à Athènes pour entendre des personnes. Vous avez également chaque mois des équipes de l'OFPRA à Beyrouth ou à Ankara pour le faire. Nous disions qu'à partir du mois d'octobre et novembre, nous irons au Niger et au Tchad. Il faut faire progresser cela dans le respect absolu du droit. Et je pourrais aussi parler des 15 000 personnes que nous avons, avec le monde associatif, permis et conduit à quitter Calais en 2 ans pour rejoindre des centres d'accueil d'orientation où ils ont été accueillis par ces enthousiasmes-là.
Alors, question quand même, Pascal Brice, permettez-moi juste d'intervenir là-dessus. Vous êtes pour le respect du droit international, de la Convention de Genève de 1951, qui fixe des critères bien précis pour le droit d'asile, mais il y a quand même la question qui se pose aujourd'hui d'une éventuelle évolution de ces critères. Parce que quelqu'un qui meurt de faim dans son pays, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de
négocier avec
de rester
cette nouvelle convention de Genève plus protectrice que celle d'aujourd'hui? En l'état actuel de la communauté internationale?
Assez illusoire.
Donc, oui. Moi, je vais vous dire comment...
Mais c'est quand même une question qui se pose, et je pense que Sophie Beau et Geneviève Jacques la poseront aussi.
Et oui, et elle est évidemment totalement légitime, elle est la nôtre. Les officiers de protection qui sont dans les ports voient des gens, ils ne se posent pas la question, c'est pas écrit sur le front, de savoir si on relève ou non du droit d'asile. Donc moi, je vais vous dire comment je vois les choses à cet égard. Je crois qu'il faut absolument veiller à mettre un terme aux confusions. Vous voyez, par exemple, on parle de politique migratoire, puis on parle d'asile, puis on revient. Non, ce sont deux choses distinctes. L'une n'est pas supérieure à l'autre. L'homme et la femme, ou l'enfant, qui demande l'asile, qui relève du droit d'asile, ou pas après l'instruction par l'OFPRA, ou celui qui est débouté, l'un n'est pas supérieur à l'autre. Humainement, ce sont des situations terribles. Simplement, il existe un droit d'asile qui est au cœur de la République, qui est dans notre Constitution, qui est dans nos engagements internationaux et qui relève d'une obligation. Et donc, ça, moi, je pense qu'il faut impérativement suivre les instructions du président de la République qui nous dit « respectons à 100% le droit d'asile ». Et puis, avoir le débat de la politique migratoire, qui n'est pas le mien en tant que directeur de l'OFPRA, et qui est effectivement nécessaire, indispensable, mais en arrêtant les confusions. Parce que si, pour de très bonnes raisons, comme vous le disiez, si on dit « ah ben non, le droit d'asile aujourd'hui, la Convention de Genève, ça ne suffit plus. Il faut faire différemment, il faut élargir. » Mais d'abord, moi, nous serions incapables au plan international d'avoir une Convention de Genève aussi protectrice. Et puis moi, je suis convaincu que lorsque l'on est dans la confusion, c'est toujours le droit d'asile qui en paye les conséquences, surtout dans un contexte politique, économique et social en Europe où les crispations existent. Donc moi, je suggère que nous soyons intransigeants sur le respect du droit d'asile, c'est la vocation de l'OFPRA, et que le débat de politique migratoire s'engage, mais de manière distincte.
On repart au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Sophie Beau, je vous promets de vous donner la parole dans une seconde. On va peut-être écouter Alexandre, c'est bien ça, qui est au standard de France Inter. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir, Alexandre de Paris 14. Je suis bénévole dans une petite association de la région parisienne, le groupe Accueil et Solidarité, le GAF. Et je fais une petite parenthèse, on vient de nous sucrer une allocation, ce qui fait que nos salariés ne pourront bientôt plus être payés. Bon, ensuite pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, nous pensons que ils ont le même droit que vous, et on respire tous le même air. Et ma question est la suivante, pourquoi c'est toujours les mêmes pays qui accueillent le plus de réfugiés, l'Allemagne, l'Italie et la Grèce, et pourquoi la France ne ferait-elle pas ce que a suggéré Anne Hidalgo, à savoir recevoir 1 à 3 réfugiés dans chacune des 36 000 communes de France.
Merci Alexandre pour cette question. Sophie Beau.
Oui, moi je voulais rebondir sur la distinction qui est pratiquée, si vous voulez. Alors nous, quand on accueille ces personnes qui sont tous des rescapés, évidemment, vous imaginez bien qu'on ne va pas leur demander pour quelles raisons ils ont fui le pays, mais je pense que à travers leur témoignage qui apparaît quand même avant tout, c'est une extrême complexité, et je félicite les officiers de l'OFPRA d'arriver à dissocier et à mettre dans des cases celles qui vont bien, pour savoir si la personne est migrante pour des raisons économiques, si elle fuit un conflit, si c'est pas des raisons climatiques éventuellement aussi, et parce que nous, ce qu'on entend, c'est quand même une beaucoup plus grande complexité, et des personnes qui fuient à la fois un conflit d'un pays qui est en proie à la sécheresse, qui passe par la Libye, qui fuit la Libye, ce piège dont on a parlé, avec ces conditions épouvantables qu'il y a en Libye à l'heure actuelle. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions, même si SOS Méditerranée n'a pas du tout vocation à proposer des solutions politiques sur ces questions-là. Mais en tout cas, ça pose énormément de questions de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire ces catégories aujourd'hui avec la complexité du monde actuel.
Pascal Brice, en 2 secondes.
Je vous recommande un documentaire qui sort très prochainement sur le travail des officiers de protection. Vous savez, vraiment, c'est d'une extraordinaire difficulté. Mais c'est le droit. Et ce droit d'asile, il vient du plus profond de notre République. S'il y a quelque chose encore dans notre pays qui reste un trésor, fragile, à préserver à tout prix, qui fait encore l'objet d'un consensus très large, l'idée qu'il faut accueillir celles et ceux qui fuient les guerres, les persécutions, alors protégeons cela. Et vous savez, c'est pas la Convention de Genève, c'est du droit, ça évolue. Hein. Les violences faites aux femmes font l'objet de protection à l'OFPRA, ça n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Les lesbiennes ou les homosexuels persécutés, c'est la même chose. Les femmes que vous accueillez et qui font l'objet d'exploitation sexuelle, dès lors qu'elles se dissocient des réseaux qui les exploitent, aussi. Et donc, c'est l'application du droit. Et moi, je suis convaincu que si l'on sort de cela, alors on ne rend pas service à celles et ceux qui demandent l'asile. Et en revanche, celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile parce qu'ils ne le demandent pas ou qu'ils en sont déboutés, après une instruction qui doit être bienveillante et rigoureuse, relèvent d'un autre débat qui est celui de la politique migratoire qui est totalement légitime, mais qui est distinct.
Voilà, une politique migratoire pour laquelle on attend, je le précise au passage, un délégué interministériel. Ça fait plus de 2 mois que le gouvernement a annoncé qu'il allait être nommé. On ne sait toujours pas.
Alors
qui
non, c'est un délégué, vous voyez, c'est un délégué interministériel pour l'intégration des réfugiés. Donc on parle d'asile.
Ah bon, mais en tout cas, il n'a toujours pas été nommé.
Mais je devine que cela viendra.
On l'attend. Geneviève Jacques. Et après, on repartira oui. À Lyon retrouver Sylvie Guillaume.
Je veux réinsister aussi sur les réalités que nous constatons des personnes que nous rencontrons. Et où il y a effectivement des personnes qui relèvent de la protection internationale, de la Convention de Genève. Et là, il faut surtout pas affaiblir ça. Mais il faut pas non plus réduire les questions migratoires à cette seule partie très importante de la population.
Là, c'est pourtant le discours officiel. Hein.
Mais je sais bien, et c'est un discours contre lequel nous opposons à beaucoup de niveaux, parce que cette tendance prise par certains, pas par Pascal Brice, mais par beaucoup d'autres, qui serait de considérer, bon, il y a les bons réfugiés, et puis tous les autres ont vocation à rentrer chez eux, ça a un effet délétère sur l'image des personnes étrangères en général, et ça a des conséquences très graves, parce que dans les faits, il y a un certain nombre de personnes qui ne relèvent pas de la protection de la Convention de Genève, mais qui pour autant relèvent d'autres droits dont la France est signataire. La Convention sur les droits de l'enfant, quand on pense à ce qui se passe actuellement avec les mineurs non accompagnés par exemple, et qui ne relèvent pas du droit d'asile ou qui ne le demandent pas. Là, il y a des obligations de la France. Tout ce qui relève du droit de vivre en famille, tout ce qui relève du droit humanitaire, tout cela. Et il existe aussi des droits auxquels s'accrocher pour revendiquer que ces personnes ne soient pas simplement rejetées loin du regard et loin de nous.
Alors, on va partir à Lyon parce que j'ai une question à vous poser, Sylvie Guillaume. On a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de l'émission le problème européen. Il se trouve quand même que, si j'ai bien compris, les 27 désormais ont quasiment l'intention de coopérer avec la Libye. Est-ce que ça pose pas un problème, ça ?
Je vais y venir dans un instant parce qu'effectivement, manifestement, ça pose un problème. Mais dans la discussion que nous avions sur la création du droit, sur l'ouverture du droit, je crois qu'il faut aussi qu'on intègre sur le moyen, c'est plus long terme, c'est le moyen terme, toutes les questions des déplacements liées aux modifications du climat et donc de l'environnement qui vont nécessairement générer aussi des gens qui vont se déplacer. Il y a 65 millions de personnes qui se déplacent par an. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Peut-être pour un mot sur la question aussi de votre auditeur, parce qu'il s'interrogeait sur le fait que ce soit toujours les mêmes pays qui reçoivent des personnes. On a évoqué la géographie tout à l'heure, mais c'est aussi pour une raison bien simple. C'est l'entrée sur le territoire de Schengen aussi qui fait l'objet de cette appétence. Appétence qui crée des routes et ces routes sont créées aussi, je pense qu'on ne peut pas non plus écarter cette dimension, aussi par des gens qui trafiquent des êtres humains. Je ne veux pas qu'on oublie qu'il se fait des milliards d'euros autour de la Méditerranée avec ceux qui profitent des détresses et qui profitent de la mort. Et donc j'ai indiqué tout à l'heure que, peut-être aussi dans la réponse à formuler au monsieur de tout à l'heure, que le règlement Dublin devait être modifié. Moi je veux aussi qu'on évoque cette hypothèse de voie d'accès légale, parce que pour demander l'asile, il faut pouvoir atteindre un territoire, c'est aussi bête que cela. Et pour l'atteindre, quelquefois, on se met en danger. Donc, tant que on peut obtenir quelquefois des visas humanitaires, mais ça n'est pas une obligation. Et donc, du coup, ces voies légales, elles sont très peu existantes. Donc, peut-être, ce serait aussi une piste à suivre, évidemment régulée, mais une piste à suivre. Et peut-être pour revenir à votre élément sur la Libye, moi je suis horrifiée de ce qui est en train de se dérouler. J'entends parler effectivement de capacité à avoir des accords avec la Libye. Alors, je ne sais pas quelle Libye, avec quelle Libye on ferait l'accord,
peut-être avec les deux,
puisque pour l'instant, il y a deux gouvernements. Et puis, il y a surtout des conditions de traitement des personnes migrantes qui sont totalement épouvantables. Donc, on peut faire des accords avec des pays tiers. Je n'ai pas d'opposition de principe là-dessus. Sauf que des accords avec des pays tiers, ça se fait à certaines conditions. Et la question des droits fondamentaux est quelque chose qui est absolument premier à défendre. Ça n'est pas possible avec la Libye. Et c'est d'ailleurs très inquiétant d'entendre aussi, je ne sais pas si vous l'avez évoqué avant, mais d'entendre ce qui nous est arrivé aux oreilles ces derniers jours, d'une sorte d'accord avec
secret entre l'Italie et la Libye,
des passeurs et des gens qui trafiquent des personnes humaines. Et vraiment, il faut être très très précis là-dessus. Et écarter toute hypothèse de passer des accords en sous-main de ce style qui sont totalement épouvantables.
Merci beaucoup Sylvie Guillaume. On repart au Standard de France Inter. Clarissa est en ligne de Lampertheim en Alsace. Bonsoir Clarissa.
Oui, bonsoir. Moi, je souhaite contester une des priorités du gouvernement concernant les demandeurs d'asile, c'est-à-dire de les renvoyer chez eux au plus vite quand ils ont été déboutés. Déboutés, ça veut dire quand leur demande d'asile ou de protection subsidiaire, c'est-à-dire la protection pour une persécution qui n'est pas strictement politique mais autre, a été rejetée par l'OFPRA et puis après que leur recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Je soutiens un certain nombre de demandeurs d'asile à Strasbourg et près de Strasbourg en tant qu'interprète et en tant qu'hébergeante d'urgence pour des demandeurs d'asile qui sont à la rue, en liaison avec deux associations à Strasbourg qui les aident, dont la CIMAD. Et j'ai vu beaucoup de décisions de l'OFPRA, beaucoup de comptes rendus d'entretien de ces demandeurs d'asile avec l'OFPRA et de décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Je ne les trouve pas bienveillantes du tout. Ces textes sont...
Alors on va peut-être poser Clarissa la question à Pascal Brice puisqu'il est là.
Si vous permettez que je précise simplement.
Pas trop longtemps ?
Non, pas trop longtemps. Les textes en question reprochent toujours, d'après ce que j'ai vu, aux demandeurs de parler ou d'écrire de manière convenue. C'est jamais assez détaillé, c'est jamais assez personnel, c'est jamais convaincant. Et ce langage est utilisé de manière absolument standard par l'OFPRA et par la CNDA, quel que soit le détail des demandes et des recours des personnes concernées.
Alors, merci Clarissa. On va poser la question à Pascal Brice.
Oui, moi je vous remercie madame, parce que sur la motivation des décisions de l'OFPRA pour les rejets, moi je suis comme vous convaincu que nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Vous savez, depuis 4 ans, l'OFPRA s'est beaucoup réformé, je crois. Je pense que Geneviève Jacques peut en témoigner. Ça se voit d'ailleurs sur un élément simple. Je pense, madame, que vous devez aider de longue date des demandeurs d'asile. Sans doute que vous savez, vous avez vous-même peut-être, il y a 5-6 ans, comme la plupart des associations, vous disiez c'est pas la peine d'aller à l'OFPRA, parce que l'OFPRA protège pas, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Vous savez que depuis 4 ans, lorsqu'on protège en France, parce qu'on applique le droit d'asile, c'est l'OFPRA. Et que d'ailleurs, vous avez la possibilité, si vous êtes membre d'une association agréée par l'OFPRA, comme c'est le cas d'ailleurs de la CIMAD, que je salue à nouveau à travers Geneviève ici, d'assister à ces entretiens. Et moi, je vous fais la proposition de venir assister à ces entretiens parce qu'il y a un décalage, et qui d'ailleurs, de ce point de vue-là, nous sommes fautifs parce que ça ne devrait pas être le cas, entre la motivation écrite des décisions et le déroulement effectif de l'entretien, dont je peux vous dire, et le taux de protection de l'OFPRA le monde, vous savez qu'aujourd'hui, c'est 40% des demandeurs d'asile en France qui sont protégés. C'était 20% il y a 5 ans, en application du droit. Et nous nous sommes profondément réformés. Moi, je vous invite, madame, à, comme tous les membres d'associations agréées, à venir assister à un entretien de l'OFPRA parce que je crois qu'il faut pouvoir prendre la mesure de ce qui se passe. Et lorsqu'il y a des erreurs, la Cour nationale du droit d'asile est là pour les corriger.
Alors, je vais vous presser un petit peu parce que le temps presse. Et il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure au cours de l'émission et il serait bon qu'on en dise un petit mot. C'est le fait d'aller chercher les réfugiés, notamment en Afrique. Alors, on va essayer d'aller un petit peu vite pour pouvoir encore prendre quelques auditeurs tout à l'heure. Pascal Brice, ça, l'OFPRA va le faire, ça? Ou a déjà commencé à le faire?
Nous allons
au
le
Niger
faire. Alors, nous le faisons déjà depuis 3 ou 4 ans en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Et nous allons le faire à partir du mois d'octobre, novembre, au Niger et au Tchad. C'est la demande du président de la République. Nous le ferons avec le Haut Commissariat aux réfugiés à partir de dans quelques semaines. Nous serons sur place pour protéger des personnes. C'est ce que Sylvie Guillaume appelait les voies légales d'accès dans le cadre de ce qu'on appelle la réinstallation des personnes qui relèvent du droit d'asile, qui seraient dans un projet migratoire et qui pourraient être réinstallées en France.
Et l'idée qu'avait lancée Emmanuel Macron au mois de juillet d'aller en Libye?
Alors en fait, le président de la République à Orléans avait indiqué ce que nous allons faire à sa demande, des missions de protection au Tchad et au Niger.
La Libye, il n'en est pas question.
La Libye, aujourd'hui, il n'en est évidemment pas question. La Libye, moi je suis
même
en contact.
Même pas signataire de la convention de.
Et je vais vous dire que le HCR, il travaille en ce moment, essaye dans toute la mesure du possible d'obtenir des lieux qui soient vraiment des lieux d'accueil, etc. La situation est terrible aujourd'hui en Libye.
Et ce qu'il faut espérer, c'est que les visas seront donnés pas au compte-gouttes, comme c'est le cas jusqu'à présent, après le travail de l'OFPRA, mais qu'il y aura enfin des arrivées conséquentes, parce que jusqu'à présent, c'est du compte-gouttes, les visas.
On va au standard de France Inter. Léopold est en ligne de Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Léopold. Moi, j'ai 19 ans, en fait. Donc, j'ai grandi avec des images des catastrophes de bateaux dans la Méditerranée, avec des gens qui se noyaient là, à la télé, avec des gens à Paris que je voyais de plus en plus venir, qui étaient dans une détresse incroyable, des images de Calais où je voyais des gens vivre dans des conditions déplorables dans le pays où je suis né. Et j'ai eu une certaine désillusion du pays dont on disait de l'humanisme, de la solidarité, de tout ce qu'on voulait. Et voilà, je me suis posé plein de questions. Comment est-ce que ça pouvait arriver à des conséquences comme ça? Comment est-ce que même une résolution n'a pas pu être trouvée par les pays des pays puissants comme les nôtres? Et j'ai trouvé des réponses petit à petit. Je me suis dit qu'on foutait pas mal le bordel là-bas, où on prenait plein de ressources, etc. Je me suis dit aussi que le pays avait l'air concerné plutôt par des questions d'ordre économique, où il fallait rétablir une croissance infinie et un plein emploi dans notre pays, et que ça, au final, des gens qui crèvent dans la rue.
Une petite question peut-être, Léopold, parce que là, le temps tourne. Une petite question.
Je voulais demander aux gens autour de la table où, quand et comment on peut aider, que ce soit dans nos petites vies au quotidien, dans les vies où on n'a pas beaucoup de temps, ou même pour des gens qui ont du temps, qui veulent s'engager, qui veulent devenir bénévoles, comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce que les auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui peuvent donner
leur
temps, de leur énergie?
Merci beaucoup Léopold. On va poser la question à Sophie Beau de SOS Méditerranée. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors,
quand on est citoyen.
Il y a beaucoup de choses à faire. SOS Méditerranée n'existe que par l'action des citoyens qui financent en fait déjà cette action. Donc la première chose, c'est faire des dons, parce que ça coûte extrêmement cher de secourir ces personnes. Ça coûte 11 000 euros euros par jour. Malgré tout, on arrive à avoir ce bateau, l'Aquarius, depuis 18 mois. Mais après, on peut s'investir quand on a du temps. Et nous, on repose aussi beaucoup sur le don de temps, en fait, et sur la mobilisation citoyenne. On a pour l'instant une centaine de bénévoles et bientôt une dizaine d'antennes en France.
Voilà, et puis sachant qu'il y a beaucoup d'associations diverses et variées. Il y a évidemment la CIMAD.
Il y en a beaucoup d'autres.
Il y a le Saint-Démont, il y a MSF.
Et on peut dire.
De petites associations même aussi qui se créent aujourd'hui.
Il y a depuis 2 ou 3 ans une vraie prolifération d'initiatives citoyennes, et je voudrais dire à Léopold, s'il a un ordinateur certainement, qui regarde sur un site qui s'appelle Sursaut Citoyen et qui montre partout en France où il y a des initiatives citoyennes, et c'est sûr qu'il y en a probablement pas loin de chez lui, où on peut s'engager à la fois aux côtés de personnes exilées qui en ont besoin, et aussi pour essayer de faire changer l'opinion publique.
Et Léopold peut aussi devenir officier de protection de l'OFPRA.
Voilà, dites-moi, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais prendre Arnaud, mais je sais qu'il est déjà 19h56 et 30 secondes. Arnaud, si vous êtes hyper court, vous pouvez intervenir, mais vraiment très rapidement, parce qu'après, il faut quand même qu'on permette à nos invités de conclure.
Je vais faire super court. Je voulais juste dire, faut être positif aussi, quoi. Ça a été génial dans les écoles d'accueillir les enfants syriens, les enfants érythréens, les enfants ouzbeks. Nous, dans notre petite commune, nos enfants se sont éclatés. On a découvert aussi d'autres cultures. On s'est mobilisé. On a fait des dons. Et cet échange culturel et cet échange, que nos gamins se rendent compte que, ouais, il y a des mômes, et ben maintenant, on les voit rigoler, ces gamins-là, alors qu'ils se prenaient des bombes il y a 2 ans. Et ça a été merveilleux, quoi. Et c'est aussi ça, l'accueil des réfugiés en France, quoi. C'est aussi quelque chose de beau, et que ça crée une dynamique auprès de nos enfants. Ils se sont rendus compte aussi de ce qu'était le monde et de ce qu'on pouvait faire à notre échelle, individuellement.
Et ben merci beaucoup Arnaud. Merci Arnaud. Je crois qu'ici tout le monde salue votre action. Je pense que c'est le cas de Sylvie Guillaume aussi à Lyon.
Ah, tout à fait, parfaitement. Continuez comme ça et aidez-nous à faire évoluer les choses correctement.
Un dernier mot, vous avez 10 secondes chacun, Geneviève Jacques.
Le président de la République a dit qu'il prenait cette question, ce défi migratoire très au sérieux, et qu'il voulait faire une refondation de la politique migratoire. On dit d'accord, mais à condition que ça se fasse, que nous appelons avec beaucoup d'associations à une espèce de Grenelle de l'immigration sur les questions d'asile et d'immigration, qui mettent des politiques, des chercheurs et des associations pour repenser une politique à la hauteur.
Merci beaucoup Geneviève Jacques, vous n'avez plus le temps, parce qu'elle va vous approuver
Alors moi je participerai, j'espère, à ça, mais ouais. La réalité sociale de la France, c'est ce que disent tous vos auditeurs, ce n'est ni du basochisme ni de la xénophobie, ce pays est riche de beaucoup beaucoup d'initiatives et d'accueil, il faut pousser pour que ça s'améliore encore.
Sophie Beau.
Et moi je ne peux qu'abonder, ce que nous voyons tous les jours avec Espoir Citerné, c'est une très très grande solidarité en France, donc je pense qu'on a cette responsabilité, nous la société civile, de reparler de ces valeurs fondamentales. Il n'y a peut-être pas assez d'intellectuels qui nous aident à les porter, il faut les porter pour que les politiques ensuite s'emparent des sujets.
Voilà, merci, c'est noté. Merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous ceux qui étaient de l'autre côté de la vitre, à la technique, merci notamment à nos amis de Lyon pour la liaison à distance. C'est fini.